Chapitre 32. Le mal par le mal. Je voulais que tu comprennes ce qu'est le vrai courage, au lieu de t'imaginer que c'est un homme avec un fusil à la main. Le vrai courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même sans s'arrêter. Harper Lee. Bretagne, Finistère Sud, samedi 25 septembre. La terrasse ensoleillée du restaurant dominait la baie d'Audierne. La côte bretonne était aussi belle que la côte mexicaine, même s'il y faisait plus froid.
Brrr, on se gèle les mules,
frissonna Billy en remontant la fermeture éclair de son coupe-vent. Son opération étant prévue pour le lundi suivant, nous avions décidé de nous changer les idées en nous offrant un week-end de repos loin de Paris. Qu'importe l'avenir, j'avais dépensé une partie de notre argent dans la location d'une voiture et d'une petite maison près de Plogoff, face à l'île de Sein. Avec cérémonie, le serveur posa au centre de la table le plateau de fruits de mer que nous avions commandé.
« Tu ne manges rien ?» s'étonna-t-elle.
Je regardais avec scepticisme l'assortiment d'huîtres, d'oursins, de langoustines et de palourdes, tout en rêvant à un hamburger au bacon. J'essayais malgré tout de décortiquer une langoustine.
« Un vrai gosse !» plaisanta-t-elle.
Elle me tendit une huître sur laquelle elle venait de presser un filet de citron.
« Goûte, il n'y a rien de meilleur au monde !»
J'observai l'aspect glaireux avec méfiance.
« Pense à la mangue lorsque nous étions au Mexique !»
insista-t-elle. Savoir décrire les saveurs du monde réel. J'engloutis la chair ferme du mollusque en fermant les yeux. Elle avait un goût corsé, salé et iodé. Un parfum d'algues et de noisettes qui se prolongeait en bouche. Billy me fit un clin d'œil en riant. Le vent faisait voler ses cheveux blancs. Derrière nous, on apercevait le va-et-vient des langoustiers et des petits bateaux multicolores qui mouillaient leurs casiers pour pêcher coquillages et crustacés. Ne pas penser à demain, ni au moment où elle ne sera plus là. Vivre l'instant. Balade dans les ruelles tortueuses du port, puis le long de la plage de Trescadec. Promenade en voiture de la baie des Trépassés à la pointe du Raz avec, toujours, l'insistance de Billy à vouloir conduire. Fou rire en se rappelant l'épisode du shérif qui nous avait arrêtés pour excès de vitesse en Californie. Prise de conscience que nous partageons déjà beaucoup de souvenirs. Désir spontané, mais immédiatement refoulé, de parler de l'avenir. Et puis la pluie, bien sûr, qui nous surprit au milieu de notre promenade sur les rochers.
Ici, c'est comme en Écosse. La flotte fait partie du paysage,
me lança-t-elle tandis que je commençais à râler.
Tu t'imagines visiter les Highlands et le Loch Lomond sous le soleil, toi?
Rome, Piazza Navona, 19h.
Goûte-moi ça, c'est à se damner,
dit Carole en tendant à Milo une cuillère de son dessert, un tartufo maison agrémenté de chantilly. L'œil malicieux, Milo dégusta la crème glacée au chocolat. Elle avait une consistance très dense et un goût proche de la truffe qui se mariait à merveille avec le cœur de griotte. Ils étaient attablés à la terrasse d'un restaurant de la Piazza Navona, lieu de passage obligé pour quiconque mettait les pieds dans la ville éternelle. Entourée de terrasses et de glaciers, la célèbre place faisait la part belle aux portraitistes, aux mimes et aux vendeurs à la sauvette. Alors que la nuit commençait à tomber, une serveuse vint allumer la bougie placée au centre de leur table. L'air était doux. Milo regardait son ami avec tendresse. Malgré la déception d'avoir perdu la trace du livre de Tom, ils avaient tous les deux passé un après-midi plein de complicité à la découverte de la ville. À plusieurs reprises, il avait failli lui avouer l'amour qu'il taisait depuis si longtemps. Mais la crainte de perdre son amitié avait bloqué toutes ses velléités. Il se sentait vulnérable et craignait de voir son cœur se briser. Il aurait tant voulu qu'elle le considère sous un autre jour. Tant voulu lui offrir une autre image de lui-même. Tant voulu lui montrer l'homme qu'il pourrait devenir le jour où il se sentirait aimé. À côté d'eux, un couple d'Australiens dînait avec leur petite fille de 5 ans qui, depuis un moment, échangeait des fous rires et des clins d'œil avec Carole.
Cette gamine est vraiment craquante, tu ne trouves pas?
Oui, elle est marrante.
Et bien élevée.
« Et toi, tu désires des enfants ?» demanda-t-il un peu abruptement.
Immédiatement, elle fut sur la défensive. « Pourquoi me demandes-tu cela ?»«
Parce que tu ferais une excellente mère. »«
Qu'est-ce que t'en sais ? » dit-elle avec agressivité.
« On le sent. »«
Arrête de dire des conneries. »
Il était à la fois peiné et surpris par la violence de sa riposte.
« Pourquoi tu réagis comme ça ?»«
Je te connais et je suis certaine que ça fait partie des trucs que tu racontes aux nanas pour les emballer. Parce que tu penses que c'est ce qu'elles ont envie d'entendre. »«
Pas du tout. Tu es injuste avec moi.
Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites avec autant de dureté ?»
s'énerva-t-il en renversant un verre.
« Tu ne me connais pas, Milo. Tu ne sais rien de ma vie intime. »«
Eh bien, raconte-moi, bon sang.
C'est quoi le secret qui te ronge ?»
Elle le dévisagea d'un air pensif et voulut croire à sa sincérité. Peut-être s'était-elle emportée trop vite. Milo releva le verre et essuya la nappe avec sa serviette. Il regrettait d'avoir crié et en même temps, il ne supportait plus ces changements soudains dans l'attitude de Carole à son égard. «
Pourquoi es-tu devenue brutale et cassante lorsque j'ai abordé ce thème ? » demanda-t-il d'une voix plus calme. « Parce que j'ai déjà été enceinte, »
avoua-t-elle en détournant la tête.
La vérité était sortie d'elle-même, comme une abeille échappée d'un bocal dont elle aurait été prisonnière pendant des années.
Figé dans sa posture, Milo était stupéfait. Il ne voyait rien d'autre que les yeux de Carole qui brillaient dans la nuit comme des étoiles au cœur gros. La jeune femme sortit son billet d'avion et le posa sur la table.
« Tu veux savoir ? Très bien, je vais choisir de te faire confiance. Je vais te confier mon secret, mais après, je ne veux pas que tu ajoutes le moindre mot ni ne fasses le moindre commentaire. Je vais te raconter ce que personne ne sait et, lorsque j'aurai fini, je me lèverai et je prendrai un taxi pour l'aéroport. Il y a un dernier départ à 21h30 pour Londres et de là, un vol à 6h du matin pour Los Angeles.
Tu es sûre que...
Certaine. Je te raconte et je m'en vais. Et ensuite, tu attendras au moins une semaine avant de m'appeler ou de revenir dormir chez moi. C'est ça ou rien.
D'accord, concéda-t-il. On fait comme tu le désires.
Carole regarda autour d'elle. Au centre de la place, accrochée à l'obélisque, les immenses statues de la fontaine des quatre fleuves lui lançaient des regards sévères et menaçants.
La première fois qu'il a fait ça, commença-t-elle, c'était le soir de mon anniversaire. J'avais 11 ans.
Bretagne, Plogoff, Pointe du Raz.
Tu ne vas pas me faire croire que tu sais allumer un feu de cheminée ?
S'amusa Billy.
Bien sûr que si, répondis-je vexé.
Très bien. Vas-y, homme. Je te regarde avec mes yeux admiratifs de femme soumise.
Si tu crois me mettre la pression comme ça...
Au grand bonheur de Billy, la tempête se déchaînait sur le Finistère, secouant les volets et déversant une pluie torrentielle sur les vitres de notre maison, dans laquelle régnait un froid polaire. Apparemment, en français, l'expression « charme rustique » utilisée dans l'annonce devait être synonyme d'absence de radiateur et d'isolation défectueuse. Je grattai une allumette et essayai d'enflammer le tas de feuilles mortes que j'avais placées sous les bûches. Le petit amoncellement s'embrasa très vite, pour s'étouffer presque aussitôt.
« Pas très concluant, »
jugea Billy en essayant de dissimuler un sourire. En mitouflé dans son peignoir, une serviette nouée sur les cheveux, elle sautilla jusqu'au foyer.
« Trouve-moi du papier journal, s'il te plaît. »
En fouillant dans le tiroir d'un buffet bigoudin, je mis la main sur un vieux numéro de « L'Équipe » datant du 13 juillet 1998, le lendemain de la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football. La une était barrée du titre « Pour l'éternité » et montrait Zinedine Zidane qui se jetait dans les bras de Youri Djorkaeff. Billy déplia les feuilles une à une et les froissa pour former une boule assez aérée.
« Il faut laisser respirer le papier, » expliqua-t-elle. « C'est mon père qui me l'a appris. »
Puis, sans lésiner sur la quantité, elle tria du petit bois, ne gardant que les morceaux les plus secs, et le plaça au-dessus de son tas de papier froissé. Elle disposa ensuite des bûches plus grosses pour former une sorte de tipi.
« Tu peux allumer à présent, » dit-elle fièrement.
Effectivement, deux minutes plus tard, une belle flambée pétillait dans la cheminée. Le grondement du vent fit trembler les vitres avec une force telle que je crus qu'elles allaient exploser. Puis un volet claqua en même temps qu'une coupure de courant plongeait la pièce dans la pénombre. Je trifouillai dans le boîtier électrique en espérant que la lumière revienne.
« Ce n'est rien, »
dis-je en prenant un air assuré. Sans doute le disjoncteur ou un fusible.
Peut-être, répondit-elle en se moquant. Mais là, c'est le compteur d'eau que tu tripotes. Le compteur électrique, lui, est dans l'entrée.
Beau joueur, je pris sa remarque avec le sourire. Alors que je traversais la pièce, elle attrapa ma main et...
Attends.
Elle dénoua la serviette retenant ses cheveux et détacha la ceinture de son peignoir qui tomba sur le sol. Puis je la pris dans mes bras, tandis que nos ombres déformées s'enlaçaient sur les murs. Rome, Piazza Navona, 19h20. D'une voix fragile, Carole livra à Milo le calvaire de son enfance brisée. Elle lui raconta ses années de cauchemar où son beau-père venait la rejoindre dans son lit. Ces années au cours desquelles elle avait tout perdu. Son sourire, ses rêves, son innocence et sa joie de vivre. Elle lui parla de ces nuits où, au moment de la quitter, la bête vorace enfin apaisée lui répétait toujours « Tu ne le diras pas à maman, hein ? Tu ne le diras pas à maman. » Comme si maman n'était pas au courant. Elle raconta la culpabilité, la loi du silence et cette envie qu'elle avait de se jeter sous un bus chaque soir en rentrant de l'école. Puis cet avortement qu'elle avait subi en secret à l'âge de 14 ans et qui l'avait laissée déchirée, presque morte, avec au creux du ventre une souffrance inguérissable. Elle lui parla surtout de Tom, qui l'avait aidée à s'accrocher à la vie en inventant pour elle, au fil des jours, l'univers magique de la trilogie des anges. Enfin, elle essaya de lui faire comprendre sa méfiance à l'égard des hommes, cette confiance en la vie qu'elle avait perdue et jamais retrouvée, et les accès de dégoût qui, aujourd'hui encore, la submergeaient par surprise, même lorsqu'elle se sentait mieux. Carole arrêta de parler, sans pour autant se lever de son siège. Milo avait tenu sa parole et n'avait pas ouvert la bouche. Pourtant, une question s'imposa d'elle-même. Mais quand tout cela a-t-il pris fin ? Carole hésita à répondre. Elle tourna la tête pour constater que la petite Australienne était repartie avec ses parents. Elle but une gorgée d'eau et enfila le pull qu'elle avait sur les épaules.
Ça, c'est l'autre partie de la vérité, Milo. Mais je ne suis pas certaine qu'elle m'appartienne.
Et à qui appartient-elle alors ?
À Tom.
Bretagne, Plogoff, Pointe du Raz. Le feu commençait à faiblir et répandait dans la pièce une lumière vacillante. Vrillés l'un à l'autre, entortillés dans la même couverture, nous nous embrassions avec fougue, comme à l'âge des premières amours. Une heure plus tard, je me levai pour ranimer les braises et remettre une bûche dans l'âtre. Nous mourions de faim, mais les placards et le frigo étaient vides. Dans le buffet, je réussis à mettre la main sur une bouteille de cidre qui était bizarrement « made in Québec ». Il s'agissait de cidre de glace, un vin fabriqué à base de pommes cueillies sur l'arbre en plein hiver, alors qu'elles sont gelées. Je débouchai la bouteille en regardant à travers les vitres. La tempête continuait à s'en donner à cœur joie, et on n'y voyait pas à un mètre. Enveloppé dans le couvre-lit, Billy me rejoignit près de la fenêtre avec deux bolets en grès.
« Je voudrais que tu me racontes quelque chose », commença-t-elle en m'embrassant dans le cou.
Elle attrapa mon blouson posé sur le dossier d'une chaise pour se saisir de mon portefeuille.
« Je peux ?»
J'acquiesçai d'un signe de tête. Elle ouvrit la doublure à moitié décousue derrière la poche à billets et la retourna pour en faire sortir la douille métallique.
« Qui as-tu tué ?»
demanda-t-elle en me montrant le petit projectile.